Michèle Hirsch est avocate et spécialiste en droit pénal. Depuis 25 ans, elle défend et accompagne les victimes de viols et d'agressions sexuelles à travers ce parcours du combattant qu'est la procédure judiciaire pour des affaires aussi délicates. Justement, elle a également participé à des procès emblématiques qui ont participé à définir juridiquement le viol en tant que crime de guerre. On écoute Michèle Hirsch.
Bonjour Michèle Hirsch.
Bonjour.
Vous êtes avocate et spécialiste en droit pénal. Pour commencer, vous qui défendez ou avez défendu des affaires de viol régulièrement, ces affaires qui sont extrêmement sensibles, pouvez-vous nous revenir avec nous sur les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontée au cours de ces appels, de ces affaires ?
La confrontation avec le système judiciaire pose énormément de problèmes. Vous savez que la plupart des victimes de violences sexuelles, de viols, ne déposent pas plainte et que dans celles qui arrivent à déposer plainte, eh bien, il y a très très peu d'affaires qui aboutissent à la condamnation de l'auteur. Ça, c'est la réalité à laquelle je pense qu'on est confronté. Pas seulement en Belgique, mais dans la plupart des pays. Alors, bon, moi, j'ai, comme avocate, j'ai défendu beaucoup de femmes qui demandaient qui avaient déposé plainte ou qui allaient déposer plainte. Il y a aussi le problème du temps. Il faut savoir que dans notre droit, bien la victime, d'une certaine manière, qui dépose plainte, elle est non seulement une victime, mais elle est aussi dans son corps, si je puis dire, une preuve. Une femme qui est victime de viol, elle doit réagir si elle veut déposer plainte, en quelque sorte contre nature. Parce que la première réaction d'une femme victime de violences sexuelles va être de, bon, d'abord de se laver, d'enlever tous ses vêtements et de les jeter, de les détruire. Et en réalité, elle va faire disparaître les preuves. Mais la première chose qu'elle devrait faire, c'est justement de ne pas se laver, ne pas jeter ses vêtements, au contraire, les conserver. Elle devrait même conserver ses urines. Et elle devrait se rendre le plus vite possible dans un centre habilité à recevoir son témoignage et à constater les preuves, et il en existe à Bruxelles, notamment.
Des principaux problèmes dans ces affaires de viol et d'agression sexuelle, c'est la difficulté de prouver le viol ou l'agression sexuelle, donc de rassembler en fait des preuves à charge, ce qui explique pourquoi les victimes préfèrent se taire et ne pas porter plainte, et qu'il y a si peu de plaintes. Et comment, en général, on accompagne les victimes quand on est dans votre position, c'est-à-dire la position de les défendre ?
Je ne suis pas sûre, contrairement à ce que vous disiez, que c'est le fait de ne pas aboutir dans une procédure judiciaire qui retient les femmes à dévoiler les faits dont elles ont été victimes. Je ne suis pas sûre du tout de cela. Il faut savoir aussi que la plupart des violences sexuelles sont dans un environnement proche de la famille. Mais admettons que tout soit réuni pour aboutir. Alors, il y a le temps de la justice, bien sûr. Il y a les constatations qui vont être faites dans le cadre de l'enquête pénale qui va précéder le stade de la comparution devant le tribunal correctionnel. Et il faut savoir que le processus judiciaire lui-même est une épreuve énorme, énorme. Et à moins d'être vraiment, et même si on est la victime est accompagnée dans tout ce processus par son entourage, en tout cas par son avocat, il n'en demeure pas moins qu'un processus judiciaire implique pour la victime de revivre, et pas qu'une fois, les faits dont elle a été victime. Et moi, j'ai des clientes qui, parfois, quand elles ont comparu devant le tribunal correctionnel, parfois c'était parce que le temps de la justice est fort long, ça pouvait être plusieurs années après les faits, elles revivent et elles ont de nouveau les symptômes qu'elles avaient au moment des violences sexuelles. Il faut savoir aussi que c'est la confrontation avec son agresseur devant le tribunal correctionnel. Donc le processus judiciaire peut être aussi traumatique.
Alors, j'aimerais maintenant parler plus de viol comme crime de guerre. Vous avez participé en tant qu'avocate à plusieurs grands procès en Belgique, notamment sur la qualification du viol comme crime de guerre, celui de Séraphin Touahéra et Pierre Bassabosé, reconnus coupables de crimes de génocide et de crimes de guerre. Pouvez-vous nous en parler de ce procès?
Effectivement, je suis avocate des victimes, deux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda depuis 1995. 29 ans après les faits, il y a des femmes qui sont venues témoigner des viols qu'elles avaient subis avec un courage vraiment extraordinaire. Parfois, elles parlaient pour la première fois de ce qu'elles avaient vécu elles. Personne ne sort indemne de ce genre de procès, ni les jurés, ni la cour, ni les avocats. Et c'est vraiment impressionnant, le courage des victimes qui, comme je vous le disais, revivent devant vous et sous les yeux de l'accusé, la tête haute, mais elles revivent ce qu'elles ont vécu. Et si elles le font, en réalité, pourquoi elle témoigne, c'est pas pour avoir des dommages, encore que c'est une grosse question dont on aurait à répondre, parce qu'on n'est nulle part dans le dédommagement des victimes, mais elles le font pour la transmission, pour la transmission à leurs enfants, pour la transmission à ceux qui sont là, et pour obtenir justice, et pour que ça n'arrive pas, voyez, pour qu'on comprenne mieux le processus, et que ça n'arrive pas. Alors pour le processus, ce que j'ai été, enfin ce que j'ai compris dans ce dernier procès qui était vraiment extraordinaire, c'est que ces viols qui ont été systématiques, on parle de plusieurs centaines de milliers de femmes qui ont été violées, et ils ont été en réalité organisés et qu'ils sont le produit d'une propagande préalable au génocide et une impunité préalable au génocide aussi.
Y a-t-il des parallèles à faire avec la manière dont les crimes sexuels du Hamas vont être traités par la justice aujourd'hui?
La justice, c'est beaucoup de tribunaux qui sont susceptibles d'être différents. Voyez, il y a une justice internationale, des cours internationales, et il y a, par le biais de la compétence universelle, des compétences nationales. Donc c'est à l'honneur de la Belgique d'avoir parfois jugé de crimes de guerre contre l'humanité ou génocide des Tutsis, alors que ce sont des crimes qui ne sont pas commis sur son territoire. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer dans les procès? Je n'en sais rien. La seule, et je ne sais pas à quel stade, ni quand, ni devant quelle cour ou devant quel tribunal. Le rapport des Nations Unies sur les violences sexuelles commises par le Hamas ne sont, enfin, ça vient d'être publié, donc
Oui.
je viens d'en prendre connaissance. La seule chose que je peux dire, c'est que dans la description des violences sexuelles, bon, il n'y a pas énormément de description puisque c'est un rapport public, n'est-ce pas? C'est pas une enquête pénale. Et bon, voilà, c'est une enquête qui est faite 2 ou 3 mois après les faits. Mais on peut relever que des violences sexuelles ont été commises à plusieurs endroits différents, avec des violences extrêmes, et que plusieurs viols, d'après ce rapport, précèdent en réalité, précèdent la mort. Donc, je fais des parallèles avec les viols dont nous avons parlé dans le procès du génocide des Tutsis pendant plusieurs semaines, qui impliquent aussi des viols d'une extrême violence et parfois la destruction
Du corps.
du corps. Des organes féminins, notamment. Et en tout cas, dans le cas du génocide des Tutsis, ces violences n'arrivent pas par hasard. Ça fait partie de. La femme est au cœur, je dirais, de la machine génocidaire. Alors, la question qui va se poser, donc, n'est pas celle, me semble-t-il, des violences elles-mêmes, mais de la responsabilité des chaînes de commandement. Parce qu'il est, comme dans le cas dont je vous ai parlé du génocide des Tutsis et de l'accusé qui était poursuivi pour viol comme crime de guerre, il a été condamné pour des viols que lui-même n'avait pas commis, mais en sa qualité de commandant. Et ça, c'est une question qui me paraît extrêmement importante. C'est de voir, et je pense que l'avenir nous le dira, c'est la question de la responsabilité du commandant, on dit cela en termes de droit, dans les crimes commis par ses subordonnés.
Eh bien, Michel Hirsch, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocate, spécialiste en droit pénal, que vous avez été également experte en droit des victimes auprès des Nations Unies, de plusieurs instances internationales et nationales, et du Parlement belge et de la communauté française. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.